France Culture.
Là, on est en train de se préparer pour les accueillir, ce qui sont en bagage. Voilà.
Donc, en fait, la famille, là, elle retrouve la famille avec les enfants. Cette famille-là avec les ballons et tout ça. C'est la mère qui retrouve sa fille.
Catholique de France, la tentation radicale. Un documentaire de Isabelle de Gomain et Anne Fleury. Deuxième épisode, trouver sa place.
Je suis Valérie.
Anna Asme Valérie.
De Sant'Egidio.
De Sant'Egidio.
Alors, cher Rima, Youssef, Viviane, Lamar, Émiral. Voilà, on est heureux de vous souhaiter.
Nous sommes heureux de vous voir.
À tous la bienvenue en France.
Ahla wa sahla fikoum bi Faransa.
Aujourd'hui, c'est un jour très spécial.
اليوم هو يوم كثير مميز.
Parce que c'est votre premier jour en France.
لأنه هذا أول يوم لكم بفرنسا.
Mireille, on est dans l'aéroport. L'aéroport Roissy 2 à l'arrivée de la salle E et nous sommes là avec tout un groupe de votre association Sant'Egidio qui s'apprête à recevoir donc venant du Liban un certain nombre de migrants qui ont demandé l'asile en France. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que votre association s'en est occupée exactement?
Alors, il y a une première phase de repérage, on va dire, au Liban, parce que c'est des personnes qui fuient la guerre en provenance de Syrie, dans les camps de réfugiés ou dans les logements précaires. Les camps sont énormes, donc c'est aussi des personnes de Sant'Egidio qui vivent un peu avec les personnes, qui repèrent aussi des personnes en situation de vulnérabilité et qui font passer des entretiens. Donc plusieurs pour aussi savoir si les personnes sont prêtes à quitter leur pays, enfin le Liban, mais aussi voilà, tout l'espoir de revenir en Syrie. Donc ça veut dire aussi réfléchir à ce que serait la vie en France, s'ils sont d'accord aussi avec la laïcité par exemple, tout le droit français, etc., etc., apprendre le français, travailler. Donc c'est aussi tout ce parcours-là. À partir du moment où ils disent oui, il y a tout un parcours qui aboutit jusqu'à cette arrivée-là aujourd'hui, où on est à Roissy et on s'apprête à les accueillir.
Est-ce que vous avez un critère religieux ou pas du tout ?
On a le critère de la vulnérabilité. Donc à partir de là, il y a tout état de vie, tout état de religion, enfin, ou pas. Mais le critère, c'est la vulnérabilité. Donc à partir de là, on accueille tout le monde.
Vous êtes nombreux, donc qui y a ici dans ce hall pour les accueillir?
Alors ici, il y a des collectifs d'accueil, puisque après les familles seront réparties dans un collectif citoyen. Actuellement, il y a plus de 41 départements en France qui accueillent des familles des couloirs humanitaires. Donc des collectifs citoyens, mais aussi il y a des jeunes du mouvement Jeunes pour la paix de Sant'Egidio qui sont prêts avec des fleurs, des banderoles, un petit discours de bienvenue.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi 4-5 jeunes qui sont eux-mêmes des migrants, peut-être des Syriens aussi, je ne sais pas.
Voilà, exactement.
Qui vont accueillir ces nouveaux migrants, donc il y a comme une espèce de course de relais.
Exactement.
Je me présente moi-même, je suis Madame Dial Al-Rifai, je suis Syrienne, je vis à Paris, à 20e arrondissement. Et je travaille avec Sant'Egidio pour l'instant. J'accompagne la famille comme ils ont besoin dans le cadre couloir humanitaire. Aussi, j'ai vécu avant au Liban de 7 ans. Après, je viens en France.
Et comment vous avez connu les couloirs humanitaires au Liban?
En fait, je demande à mes amis parce que j'ai réfléchi pour venir en France. Je trouve pas de solution facilement, mais il y a d'autres personnes que je connais. Ils viennent avant moi en France. Et il a donné le conseil. Il a dit vous pouvez envoyer un email pour Sant'Egidio. J'ai écrit mon histoire et on a fait après la première interview avec Madame Maria. Après, ils ont appris tous les papiers de moi. Et on va aller à la aussi consulat pour faire l'interview pour venir ici. Et c'est passé facile, alhamdoulilah. Mais après, ils ont d'accord. On a préparé pendant une semaine toutes les mises à faire. On vient ici directement à Paris. Je viens avec ma famille. On vient ensemble dans le cadre couloir humanitaire. J'ai deux frères et deux sœurs. Ils ont tous fait les études. Ma sœur de l'usine, elle a fait la pharmacie. Mon frère, il a fait l'architecture. Les autres frères, il a fait le travail dans l'informatique. Aussi, il y a deux enfants, un garçon et une fille. Ils ont intégré, entré à l'école. Ils ont tout, ils ont fait tout. Moi, j'aime aussi aider les gens dans différentes situations, parce que moi j'ai déjà passé dans des difficultés. C'est pour ça que j'ai réfléchi et j'ai aussi demandé santé judo comme j'ai fait faire pour aider les gens ici en France. Et ils ont dit qu'il y a des projets qui s'appellent cantine familiale. Ça, tous les dimanches, on va faire ça avec les gens, ils vont vivre tout seuls. On a fait le cantine familiale comme à la maison. Les gens, ils sont arrivés, on va manger ensemble, on va discuter combien de cas de difficultés. Comme j'ai l'information, je donnais un conseil pour trouver la solution.
Aujourd'hui, c'est comme un miracle. C'est un miracle. Et en fait, Il y a déjà eu depuis 2016 8000 miracles.
من 2016 نحن عندنا 100000 معجزات.
Valérie Régnier, donc je suis actuellement vice-présidente de Santé Gidio. Donc Santé Gidio est né en 1968 à Rome avec André Riccardi et d'autres étudiants puisqu'il avait 18 ans. On est une communauté donc, de laïcs, hein, de personnes ordinaires qui vivons une vie comme tout un chacun. Et dans cette vie-là, on cherche à vivre la proximité avec les plus pauvres et vivre ensemble. Donc on se retrouve après le travail, après les études, le soir pour prier ensemble. Et cette prière justement qui nous fait ouvrir la Bible et qui nous fait poser la question, comme ça a pu être le cas dans les Actes des Apôtres, de Pierre qui demande « Que devons-nous faire ?» Et donc nous, on s'est posé cette question, André Riccardi s'est posé cette question en 68 à Rome, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il est allé dans les bidonvilles de Rome voir des enfants italiens qui venaient du sud, qui ne savaient pas parler italien, ils ont commencé l'école de la paix. Ça s'est répandu dans le monde entier, nous sommes maintenant dans 74 pays, plus de 60 000 membres.
Et c'est quoi cette opération couloir humanitaire?
Alors les couloirs humanitaires, en effet, l'idée est née en 2013. Le pape y est allé en juillet 2013, je crois, à Lampedusa. C'était sa première sortie de l'Italie. Et il a voulu aller là parce qu'il y avait eu un naufrage de migrants, beaucoup de morts. Et c'est là qu'il a parlé de la mondialisation de l'indifférence. Et donc c'est là qu'est née l'idée, le projet pilote du protocole humanitaire. C'est-à-dire de se dire, il faut tout anticiper. Des personnes souffrent de la guerre. Là, à l'époque, c'était la Syrie, 2013. Et donc, il y avait énormément de Syriens qui prenaient la mer par des passeurs. Donc, un voyage pas du tout sûr. Et quand ils arrivaient en Europe, ils étaient sans papier. Illégaux, en tout cas. Et donc, c'est là qu'on a pensé de tout prendre en amont. Donc, de retourner là au plus proche. Pour nous, le plus proche, c'était le Liban, parce qu'on ne pouvait pas aller en Syrie. Donc, c'est aller au Liban, identifier les personnes. On a étudié aussi le droit européen, pour comprendre sur quels critères on pouvait identifier les personnes et sur quels critères elles pouvaient être admises légalement en Europe. Donc sur le critère de la vulnérabilité, donc il y a vraiment dans le droit européen, hein, les critères de la vulnérabilité, des femmes seules, des femmes enceintes, des familles avec des enfants en bas âge, des personnes handicapées. Et donc sur ces critères-là, on est allé au Liban, on a fait du bouche à oreille, avec beaucoup de religieux qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire on a commencé à dire, voilà, on veut faire ce protocole-là, est-ce que vous pouvez nous dire quelle famille correspondrait à ces critères de vulnérabilité? Il n'en manquait pas. Et on a, en Italie, ils ont parlé avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, et ça a abouti en 2016 à un premier accord de protocole signé donc, avec l'Italie.
Difficile de mesurer le nombre d'associations catholiques engagées sur le terrain. Il y a l'aide aux migrants, bien sûr, mais aussi l'éducation populaire, avec les écoles, le scoutisme, la lutte contre l'exclusion, l'aide au développement, l'hébergement, l'aide aux chômeurs, la santé et la vieillesse, puisque beaucoup d'établissements sanitaires sont encore catholiques. L'Église reste en France l'institution qui compte le plus d'œuvres caritatives. Cette présence est évidemment une manière d'affirmer le rôle du christianisme dans la démocratie, une manière discrète mais efficace. Mais ce rôle est actuellement remis en cause. La société a changé et le nombre de pratiquants s'est effondré. Ceux qui vont à la messe tous les dimanches représentent moins de 1,5% de la population française. 28% encore des Français se disent catholiques, mais c'est un chiffre en diminution rapide. De ce fait, les catholiques mobilisables pour ces associations se font rares. Plus récemment, la crise des abus sexuels a durement entamé la légitimité du catholicisme à agir dans la société. Le modèle est fragilisé, contesté aussi par certains catholiques qui ne comprennent pas, par exemple, la mobilisation auprès des migrants étrangers. Pourtant, cela fait 2000 ans que les chrétiens interviennent dans la cité, sous des formes très diverses au fil des temps. Les textes fondateurs du christianisme, l'Ancien comme le Nouveau Testament, ne sont pas seulement des textes de spiritualité. Ils proposent une vraie vision politique. Béatrice Wary, bibliste, enseignante à l'Institut catholique de Paris, a accepté d'ouvrir pour nous les pages de la Bible.
Peut-être qu'on pourrait d'abord remarquer que la Bible elle-même est une littérature qui n'est pas sans dimension politique. Alors, de manière d'autant plus diverse que c'est un corpus qui a été écrit sur presque 10 siècles, en tout cas 8, 9 peut-être, donc une longue histoire d'écriture qui raconte une histoire plus longue encore, puisqu'il y a toute une première partie, ce qu'on appelle le Pentateuque, l'histoire d'Abraham, de Moïse, etc., qui relève non pas d'un récit historique, mais de ce qu'on appelle de la mémoire culturelle, où le peuple d'Israël raconte ses origines. Et donc cette littérature de l'Ancien Testament, qui est la littérature du peuple d'Israël, est une littérature qui est dans laquelle le religieux et le politique ne sont pas distincts. Puisque dans l'Orient ancien, et donc comme dans les cultures de l'Antiquité, en fait, le Dieu pour Israël, qui a la particularité d'être monothéiste, ou les dieux pour les autres cultures, d'une certaine manière, sont les acteurs principaux de la vie de leur peuple et de la vie internationale. Et donc la littérature est à la fois politique, il s'agit de raconter l'histoire du peuple et de ses gouvernants notamment, et en même temps religieuse, puisque cette histoire n'est pas sans Dieu, et elle est même en interaction constante avec Dieu. Et dans le propos biblique, d'emblée, dès la première page, au moment de la création de l'homme, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa ». Qu'est-ce que ça signifie être créé à l'image de Dieu ? Donc des siècles de réflexion théologique et anthropologique ont déployé ça de multiples manières, mais dans le contexte où c'est écrit, l'expression « image de Dieu » a plusieurs sens, et notamment l'image de Dieu, c'est une expression qu'on utilise pour le roi, donc pas en Israël mais dans les cultures voisines, qui est le représentant de Dieu sur terre, en fait. Et du coup, dire que tout homme, toute femme est image de Dieu, ça signifie que chaque être humain est image de Dieu, c'est-à-dire en espèce, a une responsabilité éthique dans le monde, et une responsabilité, d'une certaine manière, de gouvernement. La Bible entretient un rapport aux politiques qui est très ambigu. À la fois, à un moment, les textes bibliques racontent l'histoire de la royauté, l'émergence de la royauté. Mais il se trouve que cette émergence est d'emblée teintée d'une critique. Il y a des textes extrêmement forts où le roi est mis en accusation parce qu'il n'a pas défendu le pauvre. Alors, par exemple, il se trouve dans un livre qui s'appelle le Lévitique, qui est un livre peut-être du 5e siècle, très lié au temple et aux prêtres du temple. Il y a un certain nombre de lois dans lesquelles on lit ceci. « N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote. » pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas, ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi, le Seigneur. » Quand on dit le texte dans son contexte, il semble que le prochain dont il est question ici, c'est l'autre Israélite, celui qui appartient à ton peuple. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le même chapitre, quelques versets plus bas, il est écrit ceci. « Quand un émigré viendra s'installer chez toi dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet immigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme l'un de vous. Tu aimeras l'émigré comme toi-même. Car vous-même avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu. Donc on retrouve le même adossement à l'identité divine. Et voyez que ce qui était dit pour l'autre de ton peuple, probablement « tu aimeras ton prochain comme toi-même », est dit pour celui qui vient d'ailleurs « tu aimeras l'émigré comme toi-même » en fait. Et ce qui est intéressant, c'est aussi « tu aimeras l'émigré parce que tu as été émigré en pays d'Égypte ». Et là, il y a le retour à une expérience commune, à une compassion, un appel à ce qu'Israël ne reproduise pas sur l'autre ce qui a été destructeur pour lui-même en fait.
Dans le Nouveau Testament, cette attention éthique est la même, elle va plus loin. Qu'est-ce que le christianisme, finalement, apporte sur ce plan-là ?
La reprise de cette phrase du Lévitique « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » se trouve dans l'évangile de Luc, où un pharisien, justement, un scribe, interroge Jésus précisément sur la manière de lire, comment lis-tu, la manière de lire cette affirmation du Lévitique. Donc je lis ce texte. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Dans la loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ?» Vous voyez que le renvoi est à ce texte du Lévitique. Il lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Et là, Jésus ne répond pas directement à la question, il raconte une histoire. Il raconte une histoire pour solliciter la conscience, l'imagination, la sensibilité de ses auditeurs et les conduire à répondre eux-mêmes à cette question. Et l'histoire retourne la question, cette fameuse parabole dite du bon samaritain, qui est l'histoire d'un homme laissé quasi mort par les brigands au bord d'un chemin. Un lévite, un prêtre d'Israël, va le voir et passer son chemin. Et un samaritain, qui est quelqu'un qui est un malcroyant en quelque sorte, qui est quelqu'un qui ne fait pas partie de la bonne société israélite, si je puis dire ça comme ça. Le samaritain, qui est considéré comme pas très bien, lui va s'arrêter, prendre soin de l'homme et l'aider. Et donc, la question ici n'est pas de savoir est-ce que celui que je dois aider c'est quelqu'un de ma famille, de mon peuple, de ma ville ou c'est tout le monde, mais la question c'est de savoir d'une certaine manière de qui tu te fais proche toi. Et là il n'y a pas de limite en fait. C'est, vous voyez que dans la parabole, qui est l'homme laissé mort au bord du chemin, celui qu'on va aider, on ne sait pas, il n'a pas de nom, on ne sait pas d'où il vient, cela importe peu. Et c'est là qu'on va trouver une motivation forte de l'engagement éthique des chrétiens. C'est que quand, par exemple, des groupes sont dans des situations oppressives qui les défigurent, mais les chrétiens peuvent s'engager en politique pour transformer des lois, pour transformer des situations, pour défendre ce qui, dans la tradition biblique, reste d'une certaine manière le seul qui doit être défendu, c'est-à-dire le plus fragile, le pauvre, l'étranger, le laissé pour compte, celui qu'on traite avec injustice. Look at the people. I said, just look at the people. Oh, we just look at the people. Said, look at the people. Standing at the judgment, they got to be. Standing at the judgment, they got to be. You got to be. Alain Thomasset, vous êtes jésuite, professeur de théologie morale à Paris. Il y a quelque chose dont on parle souvent depuis Vatican II, mais même avant, depuis d'ailleurs Léon XIII, le pape Léon XIII. On parle de doctrine sociale de l'Église, en disant, ben voilà, les chrétiens dans la société, ils suivent une forme d'enseignement social catholique, c'est-à-dire qu'ils agissent d'une certaine manière pour favoriser le bien commun. Alors, est-ce qu'on pourrait un peu préciser c'est quoi cet enseignement social de l'Église ?
C'est en gros la pertinence de l'Évangile pour la vie sociale. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un certain nombre de principes d'action, d'orientation de la vie. Alors les grands principes, c'est quoi ? Ben, c'est d'abord le respect de la dignité de la personne humaine, on en parle. C'est la justice sociale. C'est, on pourrait dire, la destination universelle des biens. Ça, c'est quelque chose qu'on ignore parfois, mais c'est que tous les biens sont donnés par Dieu à tous les humains. Donc, ça suppose qu'une répartition juste soit faite entre ces biens. Ça suppose l'option préférentielle pour les pauvres. Ça suppose la recherche du bien commun. On va y revenir, sans doute. Une notion très importante. Ça suppose la solidarité. Ça suppose la subsidiarité. Voilà un peu les grands thèmes.
Subsidiarité,
alors, la subsidiarité, c'est que on ne doit pas enlever au niveau inférieur ce qu'ils peuvent traiter à leur niveau. En revanche, ça demande au niveau supérieur de l'État, par exemple, d'aider les niveaux inférieurs. Hein, bah, c'est toute la question du dialogue social, du soutien aux associations. Ne pas tuer l'initiative locale, c'est ça que ça veut dire.
Et s'appuyer sur les corps intermédiaires.
Voilà, les corps intermédiaires. L'Europe a repris ce thème, d'ailleurs, de la subsidiarité, qui est en fait un développement de la doctrine sociale de l'Église au départ. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas des choses qu'on pourrait mettre en place de manière immédiate, c'est des principes d'action, voilà, des orientations générales, je dirais. Le pape François, le dernier, c'est Fratelli Tutti, donc sur la fraternité universelle, appelant à créer des relations sociales de fraternité dans nos sociétés et entre les sociétés, hein, au niveau international. C'est Laudato Si sur l'écologie, pour dire voilà comment l'écologie, c'est un problème qui nous concerne tous. Et pour défendre la maison commune, eh bien, ça suppose des ressources spirituelles.
Intersoir. Le pape au chevet de Grand-Mère Europe, François, a passé 4 heures à Strasbourg aujourd'hui. Première visite papale aux institutions européennes depuis Jean-Paul II.
25 novembre 2014.
De l'individualisme indifférent, le culte de l'opulence auquel correspond la culture de déchets dans lequel nous sommes immergés. Nous avons de fait trop de choses qui souvent ne servent pas, mais nous ne sommes plus en mesure de construire d'authentiques relations humaines, empreintes de vérité et de respect mutuel. Ainsi, aujourd'hui, nous avons devant les yeux l'image d'une Europe blessée, une Europe un peu fatiguée, pessimiste, qui se sent assiégée par les nouveautés provenant d'autres continents. Je souhaite que l'Europe, en redécouvrant son patrimoine historique et la profondeur de ses racines, en assumant sa vivante multipolarité et le phénomène de la transversalité en dialogue, retrouve cette jeunesse d'esprit qui l'a rendue féconde et grande. Merci.
Nous sommes au siège de l'Association des apprentis d'Auteuil dans le 16e arrondissement de Paris. Aliette de Béru, responsable plaidoyer, nous fait découvrir les locaux en prise directe avec le quartier.
Un site ouvert sur le quartier, donc on a un manège et des enfants qui viennent jouer dans le square. Et puis il y a aussi le lycée et une maison d'enfants à caractère social des apprentis d'Auteuil sur ce site qui explique qu'il y a de la vie au quotidien. À la fois la vie du quartier donc, et puis la vie des enfants accueillis.
On voit une église.
Oui, donc sur ce site historique qui est le même depuis 1860, quand il a été confié à l'abbé Roussel, il y a donc l'église d'Auteuil, construite par le père Brottier au début du XXe siècle, et puis le siège de la fondation qui abrite encore aujourd'hui quelques centaines de collaborateurs.
Nous montons maintenant au premier étage, dans le bureau du président Jean-Marc Sauvé. Jean-Marc Sauvé, on le connaît surtout comme ancien haut fonctionnaire, puisqu'il fut vice-président du Conseil d'État, et aussi comme président de la CIAZ, la Commission indépendante des abus sexuels dans l'Église. Mais c'est moins connu, Jean-Marc Sauvé a pris à titre bénévole la présidence des apprentis d'Auteuil.
La fondation Apprentis d'Auteuil, elle a été fondée il y a presque 160 ans, dans ce qui allait devenir le 16e arrondissement de Paris. Un prêtre, l'abbé Roussel, a voulu héberger les enfants des rues, héberger, scolariser, et puis leur donner une formation professionnelle, aussi une éducation chrétienne, une éducation catholique. Et au début des années 1920, il y a 100 ans, quand même les choses allaient très mal, il n'y avait plus d'argent dans les caisses, et est arrivé un prêtre, un spiritain, le père Brottier, et Daniel Brottier crée donc la fondation qui, au cours des dernières décennies, est devenue une fondation nationale. Nous sommes présents dans un département métropolitain sur deux, dans la totalité des départements d'outre-mer, parce que précisément, il y a beaucoup de précarité et de vulnérabilité de l'enfance. Alors, il y a trois domaines d'action prioritaires. D'abord, la scolarisation de jeunes et spécialement de jeunes en difficulté, c'est-à-dire des décrocheurs scolaires. Il y a un deuxième tiers qui est la protection de l'enfance. Et il y a un troisième tiers qui est très lié à notre nom d'origine, apprenti d'Auteuil. C'est l'insertion professionnelle, notamment par l'apprentissage, de jeunes qui sont à l'arrêt. Et donc, l'ambition, c'est de leur donner des éléments essentiels de savoir-être et de les engager dans une formation à caractère professionnel.
Donc vous êtes dans l'atelier de mécanique ici, où il y a trois parties essentielles. Vous
avez France Inter, 1991.
On prépare ici les BEP, vous avez de la machine traditionnelle.
Un atelier des apprentis d'Auteuil, près de Chartres.
Il y a des machines semi-automatiques et une partie machine automatique, commande numérique.
En général, les jeunes que vous recevez ici au Château des Vaux sont assez intéressés par précisément cette formation.
Sont intéressés, oui. Bon, au début, ils y viennent peut-être un peu par obligation ou par intérêt. Mais ensuite, étant donné qu'on a des machines très perfectionnées, ces machines plaisent aux élèves.
Laisse aller ta main. Ton pouce, il reste sur le tour. T'as pas de place pour travailler, là. Ton pouce, là. Il vient pousser ta patte en tournant. Vas-y. Assiste un petit peu. Fais bien le mouvement entier.
Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont leur CAP, leurs deux CAP, vous chargez de leur trouver un poste
Lorsqu'ils ne trouvent pas par eux-mêmes, effectivement, il y a un service de suite qui, là encore ce matin, j'ai eu une demande d'un patron qui cherche un jeune boulanger qui a le CAP de boulanger et de pâtissier. Mais on trouve facilement du travail, surtout sur la région parisienne.
Ce qui serait intéressant d'expliquer, c'est que vous avez fait votre carrière dans la haute fonction publique. Pourquoi avoir choisi ensuite de prendre cette responsabilité dans une association qui est chrétienne et qui s'affiche comme telle ?
Je voulais, à la retraite, travailler dans une œuvre dédiée à la jeunesse. Et si possible, dans une œuvre catholique. En rejoignant cette fondation et en présidant son conseil d'administration, en fait, j'ai fait la synthèse de deux aspirations. Le service de la collectivité, c'est ce que j'ai fait pendant 45 ans. Et en même temps, ce que je crois, qui est la révélation chrétienne, c'est-à-dire que nous venons de Dieu et que nous retournons à Dieu. Encore une fois, j'ai été parfaitement à l'aise dans un univers laïque. Je ne me suis jamais senti contraint et bridé. C'est la règle que la République française s'est donnée. C'est notre constitution. Et ça me va très bien. Mais il y a un moment où j'éprouve le besoin d'affirmer le lien et l'articulation qu'il peut y avoir entre un engagement temporel et ce que je crois, mais l'œuvre que je préside, qui est une œuvre catholique, est une œuvre ouverte à tous les jeunes, de toute confession ou absence de confession. L'accueil est absolument inconditionnel et nos salariés, je dirais les jeunes éducateurs aujourd'hui, seule une minorité, sont des catholiques et plus encore des catholiques pratiquants.
Retour au texte avec Béatrice Wary.
Peut-être que ce qui caractérise la littérature biblique dans ces deux testaments, c'est une très forte interpellation éthique. C'est une littérature, alors évidemment une littérature sur 8 siècles avec plein, ou 10 ou 9, avec plein de genres littéraires différents, c'est évidemment très complexe et ça se résume pas d'une phrase. Mais on peut malgré tout dire que l'un et l'autre testament adressent à chacun une interpellation éthique. Une de ces formulations peut se trouver dès le début de la Bible, dans cette histoire de Cain et Abel, où Cain, par jalousie, tue son frère Abel. Et Dieu, qui essaye de le faire parler, d'essayer de le sortir de cet acte, lui dit « Mais où est ton frère Abel ?» Et Cain répond « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Suis-je le gardien de mon frère ?» Évidemment, la question est rhétorique. Il n'y a pas de réponse. Et dans ce silence, le lecteur apporte sa réponse. Et évidemment, « Oui, se dit le lecteur, oui, t'étais le gardien de ton frère. » Donc cette question de responsabilité éthique, elle est d'emblée posée. Et il me semble qu'elle est attachée ou qu'elle est corrélative d'une très forte affirmation placée au début du texte biblique, qui est d'une certaine manière l'égale dignité de chacun des humains.
Moi, j'aime bien la fraternité parce que...
Jean-Marc Sauvé.
À la fois... C'est évidemment un héritage judéo-chrétien et évangélique. Et en même temps, c'est la devise de la République. C'est un horizon qui s'ouvre à tous, j'allais dire, au-delà de ce que nos services publics peuvent faire. Il y a énormément de besoins sociaux qui ne peuvent être pris en compte que dans une démarche de fraternité. Et j'ajoute que la fraternité, c'est pas un moyen seulement de mobiliser des ressources supplémentaires. C'est aussi une méthode, c'est une démarche. Un des éléments constitutifs de ce que je crois, c'est la quête continue du bien commun. Pour moi, la Déclaration des droits de l'homme, alors je ne suis pas Joseph de Maistre, je ne vais pas la flétrir, la rejeter, c'est absolument fondamental, ce sont des piliers. Tout ça s'ancre dans une conception de la dignité de la personne humaine, mais ça ne crée pas du lien social. Ce qui crée le lien social, d'ailleurs, c'est la fraternité. Et la République n'a jamais adopté le terme « bien commun », mais elle a inventé un succès d'année du bien commun qui est l'intérêt général. L'intérêt général. Et la version chrétienne de l'intérêt général, c'est le bien commun.
Alors, ça veut dire quoi, le bien commun ? Finalement, c'est quelque chose d'assez vague et chacun peut un peu y mettre ce qu'il veut derrière.
Oui, c'est un principe formel, en fait. C'est pas d'abord un contenu.
Alain Thomassé.
Il faut d'abord dire que c'est pas pareil que l'intérêt général. On pourrait dire l'intérêt général, c'est une procédure, c'est un élément du droit qui cherche au mieux l'intérêt, de combiner les intérêts entre les personnes et la collectivité. Le bien commun... C'est moins juridique, c'est plus moral, au sens où on vise le bien de chaque personne et de la collectivité. Donc c'est des conditions pour que chacun et tous, je dirais, puissent vivre une vie bonne pour eux. Le politique n'est légitime que s'il cherche le bien commun, pour la tradition chrétienne. Donc vous voyez que c'est un concept critique. C'est un concept qui dit, est-ce que vraiment on n'oublie personne ? Et est-ce qu'on pense à tout le monde ? Pas seulement dans la nation, d'ailleurs, mais plus largement. Parce que le bien commun pour le christianisme, c'est pas seulement le bien de la famille, le bien de la nation, c'est le bien de l'humanité. Ça veut dire que le bien commun de la nation française, il doit aussi prendre en compte le bien commun de l'humanité pour être juste. Parce que le risque toujours de nos sociétés occidentales, c'est de raisonner en termes d'utilitarisme, c'est-à-dire le plus grand bien du plus grand nombre. Mais ça veut dire qu'on va en sacrifier un certain nombre. Et ça, non.
Et ça, c'est pas chrétien.
Ça, c'est pas chrétien.
août 1947, Jacques Guérin Desjardins.
Demain soir, M. Pierre Bourdan inaugurera solennellement le Jamboree 1947, dit Jamboree de la paix, ou rassemblement des scouts du monde entier. Que la France ait été choisie pour organiser ce premier Jamboree d'après-guerre, le premier auquel Baden-Powell, fondateur du scoutisme, n'assistera pas, est une preuve de confiance. Une source de graves obligations aussi. Que les garçons de France, ils seront 10 000, donnent au monde entier un exemple qu'ils s'engagent à fond, qu'ils démontrent hautement que la jeunesse française n'est pas celle qu'on sait plus trop souvent à décrire, qu'en résumé, ils accomplissent une grande tâche d'accueil, une tentative de rapprochement salutaire, une œuvre de paix. Tel est leur devoir, ne nous le cachons pas. Lorsque Baden-Powell pensait que le scoutisme serait un grand trait d'union entre les nations, et trait d'union capable d'empêcher les guerres, il avait raison quant au fond. Malheureusement, les circonstances ont prouvé le contraire. N'est-il pas de notre devoir d'essayer de réunir les jeunesses mondiales par des mouvements de cette sorte encore plus étendus, sans restrictions, sans calcul, qui permettraient enfin de se mieux connaître? Toujours est-il que le Jamboree de Moisson va s'ouvrir. Pour beaucoup d'entre nous, un scout, c'est un garçon avec un grand chapeau, des culottes courtes, un foulard multicolore, des badges, des étoiles, un garçon qui aime jouer aux soldats. Mais la réalité est tout autre. Elle est un ensemble de traditions, de jeux, de disciplines au service de la découverte, de l'exploration puérile, peut-être, mais utile, en ce sens qu'elle est l'apprentissage de la vie. Si vous avez l'occasion de visiter le JAM, vous pourrez admirer vous-même les installations du camp, les théâtres, les cinémas, les expositions, les bibliothèques, les arènes. Vous pourrez vous rendre compte, vous-même également, que la devise « toujours prêt » n'est pas vaine. Unis et forts par l'amitié, dit le chant du Jamboree, espérons que celui-ci contribuera à cette entente internationale dont la connaissance mutuelle est le plus sûr garant.
Marie Mullet, vous avez été présidente des scouts et guides de France de juin 2017 à mai 2022. Vous avez même été la première femme à ce poste. Le scoutisme, c'est une autre forme de présence de l'Église dans la société. On l'ignore souvent d'ailleurs, les scouts de France, c'est le plus gros mouvement d'éducation populaire dans notre pays. 90 000 jeunes adhérents, 30 000 cadres bénévoles et une forte croissance chaque année. Alors on peut se poser la question, comment cette association, ouverte à tous les enfants, quelle que soit leur croyance religieuse, parvient-elle à rester catholique, à conserver cette identité catholique ?
C'est marrant parce que pour moi, je dirais que c'est un mouvement catholique, donc il est ouvert à tous. Il accueille tous les enfants comme ils sont, au point de départ, donc avec des familles qui ne sont pas catholiques. Et je pense qu'il n'y a rien de facile dans l'ouverture à tous, qu'elle soit sur des religions différentes, sur des publics différents, sur des gens qu'on côtoie pas dans notre quotidien. Je pense que c'est extrêmement exigeant, et parce que ça vient nous chercher sur... sur nos propres contradictions, en fait, sur l'envie d'être ouvert à tous, mais sur ce que ça suppose. Et donc, ceux qui parfois disent les scouts et guides de France, à force d'être ouverts à tous, ils sont plus catholiques. En fait, c'est extrêmement difficile de faire vivre son identité catholique tout en étant respectueux de ce que les gens en sont et de la manière dont ils cheminent. Ça demande de s'adapter constamment, d'être sur un équilibre entre qu'est-ce que j'impose et qu'est-ce que je respecte, et puis de trouver des méthodes éducatives, de constamment se remettre en question sur comment on fait vivre ces collectifs-là, et puis parce que de manière concrète, on fait vivre des collectifs qui n'ont pas grand-chose en commun parfois. Il y a toujours la question de la messe, par exemple, de est-ce qu'ils y participent, est-ce qu'ils y participent pas, les temps spirituels du matin en camp, à quel point je suis patiente à essayer d'expliquer que ça peut être chouette et à un moment je lui impose. Et donc c'est ça en fait qu'on travaille comme matière quand on met des enfants qui viennent pas des mêmes endroits.
On reproche aux scouts de France, justement, de ne pas affirmer suffisamment l'identité catholique. Alors, qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit ça ?
Je crois que les scouts et guides de France, ils sont pleinement, profondément dans l'Église, qui vont à des périphéries auxquelles d'autres mouvements ne vont pas, et que ces périphéries, elles, sont importantes. Sans doute qu'on passerait plus de temps à se dire et à construire ensemble comment on répond à toute la diversité de l'Église en utilisant les outils merveilleux que sont nos différents mouvements ou les aumôneries ou autres. Je crois que on porterait plus et on diffuserait plus un message de fraternité que des luttes fratricides.
Aujourd'hui, vous avez le sentiment que ça, ce travail se fait pas, qu'il y a, au contraire, enfin, voilà, l'Église n'est pas capable de répondre à la diversité des gens de la société.
Je crois que l'Église, elle est polarisée comme tout le reste de la société. Elle sait plus nuancer, elle est pour, elle est contre, elle est plus dogmatique que sur une logique de magistère qui enseigne ou qui dit voilà ce en quoi nous croyons et nous pensons, la société dans laquelle on veut évoluer. Et donc avec ça, comment on vous fait cheminer, elle est moins dans ça que dans le voilà la ligne. Elle se fait percuter aussi par les évolutions de la société. Il me semble qu'elle pourrait tenir son identité, dire voilà, on est pour le respect de la vie du début à la fin pour telle et telle raison. Voilà pourquoi c'est important pour nous, sans condamner et juger ceux qui font des choix différents, mais pour qui Dieu est important dans leur vie. L'époque du mariage pour tous, elle a énormément clivé. Elle pouvait porter le même message qui était important pour elle, pareil, sans cliver à ce point-là, en laissant la porte ouverte. Et je préfère être nuancée, et peut-être parfois moins audible, que crier plus fort que mon voisin pour avoir la chance d'être entendu. I want Jesus to walk with me. Il faudrait aussi parler de tous les mouvements d'action catholique, la jeunesse ouvrière chrétienne, le mouvement rural des jeunes chrétiens, etc. Parler aussi du Secours catholique, de la Conférence Saint-Vincent de Paul, de ATD Quart-Monde, du CCFD, de Habitat Humanisme et de tant d'autres que l'on regroupe sous l'étiquette de catholicisme social. Ce catholicisme social est né au XIXe siècle, mais il a connu à partir des années 60 une évolution politique importante vers la gauche. Yann Raison-Duclesiou, politiste.
Alors le catholicisme social, son histoire, elle est d'abord liée historiquement à des courants réactionnaires, légitimistes, qui dans leur refus de la République et dans leur refus du capitalisme, hein, de cette société née de la Révolution, cherchent à reconstruire une assise catholique sur la société en assumant la question sociale. Ce catholicisme social, ensuite, il s'inscrit dans la société, c'est-à-dire qu'il se sécularise et que il s'ouvre au pluralisme dans la mesure où ce pluralisme politique aussi s'institutionnalise au sein même du catholicisme. Ensuite, dans la durée, il y a toute une aile gauche qui s'ouvre en son sein et qui va se démarquer de plusieurs manières. Tout d'abord, sur les questions de solidarité internationale, on a, à partir des années 60, un catholicisme tiers-mondiste qui émerge et qui est dans une position de critique du colonialisme, éventuellement des modalités de la décolonisation. Et ça, c'est typiquement un marqueur qui fait que ce catholicisme social va trouver des relais plutôt à gauche, alors que le catholicisme social, qui reste centré autour de la gestion interne à la France de la pauvreté, va rester plutôt sur une trajectoire de droite. Aussi, ce qui a longtemps été un marqueur de la tension au sein du catholicisme social, c'est la problématisation de la pauvreté, où le catholicisme de gauche tend à considérer que l'assistance à ceux qui souffrent de pauvreté, d'exclusion, de marginalisation n'est pas suffisante. Il faut aussi rechercher le moyen d'abolir les causes de la pauvreté ou de l'exclusion. Là où le catholicisme de droite considère que le pauvre est à assister, à secourir, mais que finalement, la question des causes, elle est politique, elle est d'un autre ordre et elle ne relève pas de la charité. Donc, on a un catholicisme social qui, je pense, aujourd'hui, mobilise toujours à droite comme à gauche. Mais ces organisations historiquement catholiques, aujourd'hui, elles mobilisent très au-delà du catholicisme. La société se sécularisant, leur action ne s'est pas réduite, mais leur action s'est en partie sécularisée. Beaucoup de militants non catholiques vont participer au Secours catholique ou au CCFD ou aux Apprentis d'Auteuil. Ce sont des relais écoutés et respectés au sein de l'État.
France 3 Nantes, 1982.
Une scène de la campagne, un peu désuète, telle qu'on pouvait en voir il y a une cinquantaine d'années. En fait, il s'agit d'une action de solidarité menée par le Comité catholique de lutte contre la faim et pour le développement. À Nort-sur-Erdre, on a cultivé des haricots, dont la récolte sera vendue. Le fruit de cette vente ayant pour but d'aider au financement d'actions en faveur du tiers-monde.
Les haricots, c'est une culture de base, une culture vivrière des pays en voie de développement, hein, qui a été supprimée pour des cultures d'exploitation, quoi, par les gros propriétaires qui ont expulsé des petits paysans, quoi. Alors c'est parce qu'on n'est pas d'accord, si on veut, avec ce mécanisme du sous-développement, là, qui crée du sous-développement, qu'on essaye de faire réfléchir les gens.
Il y a toujours eu des catholiques à gauche.
Denis Pelletier, historien.
Ils ont toujours été minoritaires. Majoritairement, le catholicisme a toujours été de droite. Mais il y a toujours eu des catholiques à gauche. Ces catholiques, après 1945, ils ont énormément de mal à trouver une place dans la vie politique. Le mouvement républicain populaire, le MRP, qui espérait les recruter, a évolué très rapidement vers la droite. Donc il les a perdus. Ils se sentent pas à l'aise au MRP parce qu'ils considèrent que le MRP devient de plus en plus un parti de droite, à juste titre. Ils aimeraient bien aller au parti socialiste, un certain nombre d'entre eux. Mais la SFIO, parti socialiste de l'époque, ne veut pas d'eux, au nom du combat pour la laïcité. Donc ils arrivent pas à aller à la SFIO. Le PCF aimerait bien les recruter. Mais Rome, à partir de 1949, interdit toute collaboration entre catholiques et communistes. Donc c'est une espèce de gauche sans domicile fixe. Ils savent pas où aller. Et donc ils investissent dans l'action sociale, ils investissent dans la mission ouvrière, ils investissent dans le mouvement ouvrier, ils investissent sur le terrain, ils investissent sur des terrains très nouveaux, dans les loisirs, dans le cinéma. Donc si vous voulez, dans les années 40-50, ces gens-là existent sur le terrain social, ils n'ont pas de débouchés dans la vie politique. Ils vont en avoir dans les années 60-70 pour deux raisons. Et c'est ça, ce qu'on a appelé les cathos de gauche. Ils vont en avoir pour deux raisons. Premièrement, le Concile Vatican II va leur ouvrir des portes.
Et comment ?
Bah, simplement, c'est le principe même de l'aggiornamento conciliaire, c'est-à-dire la reconnaissance par Rome, par le Concile, par le magistère, du pluralisme politique. Donc de la possibilité de s'engager à gauche. Il y a une forme d'ouverture qui vient en quelque sorte de l'autorisation romaine. Mais il y a surtout le fait que la gauche se recompose. C'est-à-dire, dans les années 60-70, la SFIO rentre en crise parce qu'elle a été complice de la guerre d'Algérie. Le PCF rentre en crise aussi. Et donc, il y a la nécessité de fabriquer quelque chose d'autre, ce qu'on va appeler la deuxième gauche. Et là, ces catholiques, dont on ne voulait pas parce qu'ils étaient catholiques, ces catholiques trouvent un débouché. Et ça débouche sur la victoire de François Mitterrand en 1981. Mais c'est vraiment lié à un moment très particulier de l'histoire de la République. Et donc, ce moment, à un moment, il est terminé. Il est terminé. Et donc, on a l'impression que les cathos de gauche disparaissent, déclinent, etc. En fait, il y a toujours aujourd'hui des catholiques à gauche. Mais il n'y a plus cette sorte d'actualité très particulière qui fait que dans les années 60-70, ils ont semblé peser énormément. Que les cathos de gauche dans les années 60-70 soient passés de 20% du catholicisme à 25 ou 28% du catholicisme, c'est quand même pas un changement énorme. Simplement, ça a suffi dans ce contexte pour qu'il pèse.
La partie magazine d'Interactualité. Georges Montaron pour le 1500e numéro de Témoignages chrétiens.
1973.
Journée importante que celle de jeudi pour votre équipe, Georges Montaron, celle de Témoignages chrétiens. Ce sera le 1500e numéro de Témoignages chrétiens.
C'est exact.
Que reste-t-il de chrétiens, de Témoignages chrétiens ?
Eh bien, le fond, c'est-à-dire que nous faisons un journal chrétien en ce sens que nous confrontons les événements de l'actualité aux exigences de l'Évangile, mais il est vrai que participent à notre action un certain nombre d'hommes et de femmes qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont, comme nous, une même conception de la dignité de chaque homme et d'abord des plus malheureux. Et plus précisément maintenant, nous nous battons avec tous ceux qui aspirent à un monde plus fraternel et plus juste. C'est pourquoi l'équipe de témoignages chrétiens s'est engagée, comme nous disons, dans la voie socialiste. C'est pourquoi nous avons essayé de promouvoir un certain nombre de transformations radicales de la société, soit par la voie légale, parlementaire, soit par la voie syndicale et révolutionnaire.
Aujourd'hui, les hommes politiques de gauche affichant leur foi catholique sont rares. C'est par exemple le cas de Dominique Potier, député socialiste de Meurthe-et-Moselle. Cet agriculteur est le produit d'un monde paysan catholique où l'on s'engageait à la fois dans l'église et dans la commune ou dans le syndicalisme. Dans les années 70, l'Action catholique agricole visait ainsi à redonner toute sa fierté à des agriculteurs en pleine mutation professionnelle et sociale. Il s'agissait, selon les termes même de l'Action catholique, de former des leaders capables de transformer le monde pour le rendre à l'image de Dieu, à l'image de la terre promise. Pour autant, Dominique Potier n'a jamais fait de référence explicite à sa foi au Palais Bourbon. Par exemple, lors du vote de la loi sur le droit à mourir, il est un des rares de son camp à s'y être opposé, mais il a veillé à ce que ses arguments se placent sur le terrain républicain, social, sur le terrain de la solidarité et non de la religion. D'ailleurs, sur les sujets sociétaux, du mariage pour tous à la loi fin de vie, le député se démarque souvent du Parti socialiste en s'abstenant ou s'opposant. Le culte de l'autonomie de l'individu entre en contradiction avec le personnalisme de Mounier, dont ce catholique de gauche se sent l'héritier. Mounier, qui ne considère pas les individus comme des atomes dans l'univers, mais comme des personnes reliées entre elles en quête du bien commun, en quête de cette vérité qui nous dépasse. Attention pourtant, les catholiques de gauche ne sont évidemment pas le tout du catholicisme social. Depuis les années 70, des générations de croyants, aussi bien de gauche que de droite, ont assuré le fonctionnement de ces grandes associations chrétiennes sociales. Mais cet engagement marque le pas, les mouvements ont souvent du mal à recruter et les bénévoles vieillissent. Comme si la majorité des catholiques ne se reconnaissaient plus dans ce militantisme-là, dans ce catholicisme-là et son rapport ouvert au monde. Yann Raison du Clésio.
S'il peut y avoir une forme de désinvestissement des structures habituelles du catholicisme social, moi j'y vois plutôt peut-être un effet de génération. Dans ces structures, les bénévoles sont souvent des retraités, et ces retraités catholiques sont souvent porteurs d'un rapport à la société qui repose sur un désir de discrétion, de l'orientation religieuse. Ils appartiennent encore à une société française qui était très majoritairement catholique. Mais une majorité catholique bousculée, fragilisée. Et très souvent, leur génération s'est démarquée des générations antérieures, des générations de leurs parents, par un désir de proposer plutôt qu'imposer la foi. C'est-à-dire sortir d'une forme de conformisme où on est catholique parce que, ben voilà, la société est catholique et c'est comme ça. Ils ont voulu, au contraire, montrer que la foi pouvait être l'auxiliaire de l'émancipation, du cheminement individuel. Et cela supposait d'être plutôt dans une pratique de fraternité accueillante, sans chercher à tout prix à distribuer un évangile à l'issue de chaque action. Là où les générations plus jeunes, elles ont une expérience d'un catholicisme minoritaire. Donc c'est complètement un autre paysage. Et cette expérience minoritaire, elle fait que ces catholiques pratiquants résiduels, pourrait-on dire, ils s'approprient un ethos minoritaire. Et une minorité cherche à assumer son identité pour résister à l'effacement. Donc ces jeunes, ils vivent dans un monde qui est d'ores et déjà multiculturel et ils assument ce multiculturalisme en assumant une forme d'identité. Là où les générations antérieures ont une expérience majoritaire et refusent d'être identifiées pour ne pas ajouter à la domination majoritaire la pesanteur d'un prosélytisme.
C'était Trouver sa place avec Mireille Davienne, Valérie Régnier, Béatrice Wari, Diala Al-Rifai, Alain Thomasset, Jean-Marc Souvé, Aliette de Beru, Marie Mullet, Denis Pelletier et Yann Raison du Clésur. Documentation INA, Marie-Sophie Guillet de la Brosse. Prise de son, Julien Girard, Geoffroy Marie-Anne, Loïc Duros. Mixage, Manuel Couturier. Chargé de programme, Anaï Morales et Marivonne Abolivier. Coordination, Emmanuel Laurentin. Réalisation, Anne Fleury. Catholique de France, La Tentation Radicale, un documentaire d'Isabelle de Gonin. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Let's do it one more time. Oh Lord, oh, how I love Jesus. Oh, 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 how I love Jesus. Oh, love Jesus, love Jesus.